prier, mais le septième jour. Comme le sabbat juif, il commence le vendredi au coucher du soleil, pour se terminer le samedi au coucher du soleil. Les fidèles se font une règle de l'observer de la manière la plus rigoureuse. Au point de vue doctrinal, les adventistes du septième jour sont caractérisés par leur littéralisme exprès. Donc ils croient à l'inspiration de l'écriture, et nous aussi. C'est pour ça qu'il y a bien des points qui sont quand même communs. Ils croient que la Bible est divinement inspirée. Alors vous avez pu dire, il l'a dit lui-même, donc il est adventiste. Non, je suis croyant. Simplement, je n'ai pas besoin d'une étiquette. Elle est inspirée d'un bout à l'autre, et j'espère que nous allons encore le voir ce soir. Hein. Ils considèrent le Christ comme créateur aussi bien que rédempteur. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, qu'il est la parole qui a tout créé, et puis qu'il est le rédempteur, de sorte qu'il faut être juste dans notre jugement. Sa seconde venue aura lieu bientôt, nous y croyons aussi, lorsque le nombre total des élus aura été atteint. Elle sera personnelle et visible. Les morts perdent toute existence consciente jusqu'à leur résurrection à venir. Dieu seul est immortel par nature. Alors voilà une doctrine que vous devez examiner selon la parole. Est-ce que quand je meurs, est-ce que nos bien-aimés, quand ils sont morts, ont perdu toute existence consciente? À vous de voir ce que saint Paul dit, à vous de voir ce que Jésus dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans l'inconscient. Non, dans le paradis. Et qu'est-ce que Paul nous dit quand il a été ravi dans le paradis? Il a entendu des choses ineffables, qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Hein? Donc on entend quand même des choses dans le paradis. Alors, c'est ça que vous devez trouver. Nous ne sommes pas là en train de critiquer, mais nous examinons chaque jour dans les Écritures si les doctrines qu'on nous présente sont conformes à l'enseignement total de la Bible, de l'Écriture. Alors, quand Paul dit, pour moi vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est être dans l'inconscient, c'est beaucoup meilleur. Peut-être. Ne plus être conscient de rien? C'est pas drôle, moi. J'aime quand même me réveiller après avoir été sous la narcose. Non. Selon l'Écriture, ce n'est pas le sommeil, c'est le repos, oui, loin des luttes, loin des combats, mais il y a la confiance. Comme Job disait, je verrai le Seigneur. Alors il est dit, même les réprouvés ressusciteront, ça c'est vrai, nous le croyons aussi, mais pour être finalement réduit avec son chef Satan à un état de non-existence. Il n'y a pas d'enfer éternel. Si vous voulez croire ça, c'est pas ça. Mais que dit l'Écriture si je crois que toute l'Écriture est inspirée de Dieu? Ce passe ordre des textes. Et même s'il y a des choses que je ne comprends pas, qui me dépassent, je me soumets. Le baptême est pratiqué par immersion. Les fidèles sont groupés en districts, groupés sous la direction d'une conférence au fond de laquelle les fidèles doivent offrir le dixième de leur revenu. Hein, c'est vrai, hein, c'est la dîme. Et peut-être que, oui, on peut prendre quelque chose de cela, mais quelquefois il faut donner plus que la dîme. C'est trop facile de régler ça comme ça. Peut-être qu'à d'autres, le Seigneur demande moins. C'est plus une loi. L'activité missionnaire, très développée, s'étend au monde entier.
D'ailleurs, l'imminence du retour du Seigneur peut être déterminée selon eux, par l'étendue avec laquelle le commandement de Christ de prêcher l'évangile à toute nation aura été mis en œuvre. Les adventistes du septième jour prônent une existence frugale.
Là, ils ont raison. Hein? Parce que ma femme le dit aussi. Les gens meurent trop vite parce qu'ils mangent trop. Et elle dit aussi que tous les gros sont des menteurs. Excusez-moi, mais parce que la plupart des gens qui viennent la consulter, ils sont gros. Il faut les peser en deux fois sur la balance, quelquefois. Hein. Non, mais ils prétendent qu'ils mangent rien. Mais ils sont gros, grossissent. J'ai rien contre les gens qui sont gros, mais... Un de mes amis disait à sa femme l'autre jour, mais tu sais, à un certain âge, une petite bedaine, ça fait bien. Et elle était outrée, elle. Hein, parce qu'il excusait sa bedaine. Elle était furieuse. Non. Et puis si, c'est juste de ne pas trop manger. Hein. Alors là, la nourriture frugale, ben, pas ça encore. Hein. On peut peut-être prendre de la graine. De cela. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui. Il s'abstient du tabac. Amen, hein? Même les incroyants maintenant le font. D'alcool. Du thé et de café. J'ai pas encore fait ça. Bon. Vous êtes témoins. Ils entretiennent un grand nombre de sanatorias en Amérique, en Europe. En Afrique du Sud, j'ai travaillé dans un dur sanatoriat en Suisse. J'ai même assisté des mourants là-bas. Alors je les connais et je les respecte. Je sais qu'il y a des médecins qui sont très bien parmi eux. Dans l'Inde, est dirigé par des missionnaires médicaux instruits dans leurs principes et leur propre collège. Comme les Quakers et les témoins de Jéhovah, ils refusent de porter les armes, c'est vrai. Ils sont environ 40 000 évangélistes missionnaires, médecins, infirmières, et le nombre total de leurs adhérents est évalué à plus d'un million. C'était au moment où ce livre a été écrit, et cette édition de 1954. Hein. Mais vous voyez, c'est très objectif, ça ne dit rien contre, mais à vous de voir par la parole ce qui est vrai, et ce que vous pouvez laisser. Mais une des tendances, justement, des adventistes, et c'est ça que je trouve un peu déplorable, c'est que quand ils viennent dans un lieu, ils font venir un homme, certainement remarquable, comme prédicateur, et ils annoncent toujours, presque toujours, un sujet prophétique. Et alors, comme on est dans un monde angoissé, hein, on veut savoir l'avenir, on veut connaître l'avenir. Alors, ça attire les gens, comme les pentecôtistes font des séances de guérison divine. Comme tout le monde est crevotant, comme tout le monde a son cancer, n'est-ce pas? Et qu'on vous dit, nous guérissons même le cancer, eh bien, il y a une thèse qui a été faite, la guérison, moyen d'évangélisation. Comme ça, vous faites venir les gens viennent, et puis quand on vous dit que vous avez qu'à vous avancer, qu'on vous imposera les mains, ben vous vous dites, ça peut pas me faire du mal, hein, il n'y a pas la foudre dans ces mains. Et puis pourquoi? Et puis vous avez quand même entendu des paroles qui sont évangéliques. Dans le message, il y a une partie qui est biblique, vous comprenez? Et c'est ça. Alors on vous fait venir, on vous impose les mains, etc. Et puis, ou bien alors on vous dit maintenant, le Saint-Esprit me dit que telle personne va sentir une telle chaleur dans son côté, etc. Puis il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire qu'ils ont senti la chaleur, évidemment. Moi aussi je la sens quelquefois. Vous comprenez? Alors c'est il faut faire très attention que nous soyons gardés d'une manipulation des masses. Parce que moi je crois à la guérison divine, je crois aux dons spirituels qui sont surnaturels, mais je ne manipulerai pas ces choses. Et nos guérisons, nous y croyons, mais elles doivent se faire comme le Seigneur les faisait. Et comme les apôtres les faisaient. Ils disaient pas vous reviendrez à la prochaine séance.
où la guérison, eh bien, elle va commencer. Mais on a dit à ma fille qui avait les yeux malades, ma femme voulant, étant un peu influencée à un moment donné, ma première femme, par cela, quelquefois mon fils Jean-Bernard me dit, c'est papa, j'ai déjà quelquefois pensé que maman était en danger, il l'a reprise auprès de lui. Pourtant il aimait sa mère, hein. Mais parce qu'elle est, elle était un petit peu orientée de ce côté-là, du charismatisme, peut-être un peu à outrance. Alors, bon, le Seigneur l'a recueillie loin de devant le mal, de devant certaines tendances qui pouvaient être peut-être un piège. Alors, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur fait toutes choses bien. Et ça, c'est le verset qui m'a été donné le dimanche matin par un vieux pasteur, le pasteur Nicole, le père du directeur de nos gens, qui a fêté ses 80 ans cette année. Eh bien, il a donné ce verset le matin de la mort de ma femme. Gaston, le Seigneur m'a dit, quand j'étais à genoux dans la prière, le Seigneur m'a dit, dis-lui, toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit, même si ça fait l'effet d'une bombe, je te dis. Et c'était un homme aveugle depuis l'âge de 35 ans. Et j'ai su plus tard qu'il avait reçu lui-même cette parole à Berlin quand des pasteurs étaient venus lui dire, écoute, nous allons prier pour toi pour que tu guérisses. Parce que tu peux pas être aveugle, je veux pas ça pour toi. Il a dit, attendez, tout d'abord qu'il m'en parle lui. Il s'est enfermé dans sa chambre et c'est sa femme qui m'a raconté cela. Et sa femme était un peu angoissée, il sortait pas de la chambre. Puis tout à coup, la porte s'est ouverte, et cet homme, qui avait une petite barbiche blanche, certains l'ont connu, hein, c'est Albert Nicole, et je pense en tout cas notre ami Flao l'a connu, ou l'a vu autrefois à Lausanne, eh bien, il est sorti, et sa femme m'a dit, Gaston, il était illuminé, et il a dit, le Seigneur m'a dit, tu me serviras aveugle. Et c'est formidable. Ceux qui l'ont connu savent, une fois j'étais à côté de lui, sur l'estrade de la convention de Morges, une grande convention chrétienne en Suisse. Et puis, il connaissait tellement sa Bible par cœur, qu'il lisait comme s'il n'était pas aveugle. Hein. Et puis, il lisait le chapitre 8 des Romains, puis je regardais, sa Bible était à l'envers. Mais les gens ne se rendaient pas compte, ils disaient pas que c'est un pauvre aveugle. Hein. Non. Il disait avec autorité, nous sommes survainqueurs, pas plus que vainqueurs, mais survainqueurs, par celui qui nous a aimés. Il est mort à 94 ans. Si vous venez une fois chez moi, vous verrez sa photographie. 15 jours avant sa mort, une chère amie que certains connaissent ici aussi, Mademoiselle Muller, qui était amie des Nicole, l'a photographiée, elle est sur son fauteuil en prière, 15 jours avant son départ. Et c'est lui qui prie, c'est pas les mains de Rembrandt, mais c'est les mains de M. Nicole. C'est ces choses qui nous encouragent dans la vie. C'est vrai que le Seigneur nous aide. Il nous éprouve, mais il nous aide, il nous fortifie. Alors croyez-le, le Seigneur a des compassions infinies. Alors je reviens à notre histoire. Donc on fait venir quelqu'un de très capable et qui annonce des réunions, je reviens aux adventistes, prophétiques. Alors on va, des gens déjà croyants, des mieux, et puis au bout d'un certain temps, ce n'est plus seulement la prophétie qu'on annonce, mais des doctrines particulières. Et on commence à vous troubler, à vous parler que vous n'êtes pas tout à fait dans le Seigneur parce que vous n'observez pas le jour du sabbat, etc. C'est le sabbat, c'est pas le dimanche, etc. Et on essaye de vous endoctriner et de vous sortir de votre milieu pour former une nouvelle communauté qui sera une communauté adventiste. Mais je dis, mais qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent ailleurs, mais pas prendre d'abord, apporter la division dans les assemblées chrétiennes, quelles qu'elles soient, et puis mettre un accent sur un passage, et alors là, il y aurait toute la doctrine que vous pouvez relire, alors, si vous avez des doutes, l'épître aux Galates, où vous voyez Paul et qui fulmine contre ces docteurs qui sont venus troubler les âmes qu'il avait enseignées et qui ont amené la pagaille dans toute la galaxie en voulant replacer les gens sous la loi et être sous la loi finalement c'est être de nouveau sous la malédiction. Ce qui ne veut pas dire que la loi nous ne la respectons pas, mais c'est le Christ qui vit la loi en nous. C'est lui qui a rendu la loi grande et honorable. Vous comprenez? Mais moi, si je me place simplement en face de la loi, je suis de nouveau sous la malédiction. Et le Christ est venu pour nous apporter la liberté. Et c'est cette liberté qui nous a franchis. Alors pourquoi parler d'un jour plus que d'un autre? Tous nos jours sont au Seigneur. Tous nos jours sont au Seigneur. Voilà, maintenant je n'en dirai pas plus, mais je dis que ce qui m'attriste souvent, c'est qu'on aimerait pouvoir, nous sommes passionnés d'unité chrétienne, hein, vraiment, la vraie unité, pas l'œcuménisme à la noix de coco, hein, l'œcuménisme à toutes les sauces. Nous ne sommes pas œcuméniques à toutes les... Mais nous croyons à un œcuménisme spirituel, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'unité des vrais croyants, des rachetés. Et j'ai pas peur d'employer le mot œcuménique dans ce sens-là. Mais évidemment, pour certains, mais pour prononcer le mot œcuménique, c'est l'abomination de la désolation. Mais il faut savoir ce que ça veut dire, c'est toute la terre. Or Dieu a tant aimé, qu'est-ce qui est œcuménique dans son amour? C'est Dieu, alors n'ayez pas peur des morts, mais retrouvez leur sens, retrouvez leur profondeur, et ne devenez pas sectaires, et cherchez d'abord ce qui peut nous unir. Comprenez-vous? C'est ce que vous trouverez un peu dans les livres que j'ai essayé d'écrire, par exemple sur Marie. Je commence pas par dire que Marie, elle a eu une ribambelle d'enfants d'abord parce que les catholiques ne liront plus. C'est pas ça qui est important. Si elle a eu des enfants, ça lui a rien enlevé. Et puis si elle n'en a pas eu, ça lui a rien donné de plus. Alors l'histoire des cousins, etc., c'est pas une affaire que nous allons discuter. On sait que c'est vrai qu'une parenté proche pouvait être appelée cousin. Alors la question n'est pas là. Ce que nous croyons, c'est que Marie était vraiment vierge quand elle a eu son enfant. Comprenez-vous? C'était vraiment le premier-né de Marie, conçu du Saint-Esprit. Et alors, quand les gens s'aperçoivent de cela, eh bien, ils continuent de lire. Et il y a bien des catholiques qui m'ont dit, maintenant nous connaissons Marie, et maintenant nous aimons Marie, mais d'une autre façon. Parce que quand le Christ a pris la première place, Marie retrouve la sienne. Mais c'est le Christ qu'il nous faut apporter, c'est sa personne. Or, si je vous apporte une doctrine même biblique, je risque la controverse. Et je risque que nous allons nous diviser, nous ne pourrons plus parler ensemble. C'est soupé. Alors, je m'excuse. Vous avez encore des questions? C'est moi qui vous ai eu, hein? C'est affreux. Eh bien, c'est peut-être quelque chose à pardonner. Ce soir, après la réunion, si vous avez encore le courage, vous poserez les questions que vous voulez, qui vous préoccupent vous-même. Puis demain matin, ben, on aura encore du temps pour partager. Puis on aura le temps. Alors, vous êtes des anges d'avoir tout supporté. C'est juste le truc, là. Parfait. J'ai encore besoin d'être accompli pour toute bonne œuvre. Parfait. Alors nous disons dans l'épître de Paul à Timothée deux passages qui sont à la base de nos exposés sur les caractères d'un homme de Dieu. Au chapitre 6 de la première épître, je relis le texte. Verset 11, Paul s'écrit dans sa lettre à son enfant dans la foi, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Nous verrons demain ce que sont ces choses qu'un homme de Dieu doit absolument fuir. « Et recherche ou poursuit la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur d'esprit qui caractérise vraiment un homme de Dieu. » Mais après cette exhortation, dans son testament spirituel, qui est sa dernière lettre à Timothée, la deuxième épître, l'apôtre Paul nous donne un enseignement qui nous montre comment tout cela s'accomplit. Versets 16 et 17 du chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'ajouterai peut-être ce verset de Pierre que nous avons cité, où se trouve aussi cette expression dans la Bible la plus littérale de Pierre, qui est alors le testament spirituel de l'apôtre Pierre. On nous lisons ceci, verset 20 du chapitre 1er de la deuxième épître. Sachez donc tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que de saints hommes de Dieu ont parlé. Dans second, il n'est mis simplement que des hommes, mais dans d'autres versions, en particulier Darby, c'est de saints hommes de Dieu. Et dans les versions les plus littérales, il y a une petite note en bas qui dit « de saints hommes de Dieu ». Donc ceux qui ont présenté aussi bien le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, que l'Ancien, sont des hommes inspirés de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander que tu remplisses nos cœurs de ta grâce et que tu oignes nos lèvres, que tu amènes toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ, que nous disparaissions nous-mêmes pour que toi seul, tu sois au milieu de nous pour nous enseigner, pour nous parler et nous instruire par cette parole qui est à la base de notre foi, et que notre foi devienne vraiment une obéissance. Que cette parole soit éclairée par ton esprit, nous devienne vraiment compréhensibles. Tu nous promets de nous donner de l'intelligence en toutes choses. Rends-nous intelligents et réponds à tous les besoins de nos cœurs, et peut-être même à ces questions que certains auraient voulu poser et qui n'ont pas pu le faire cet après-midi, afin que nul ne se sente frustré à la fin de cette semaine et qu'au contraire, nous soyons tous comblés parce que tu nous auras répondu, selon nos besoins précis, pour la seule gloire de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, ce matin, dans notre deuxième exposé sur les caractères d'un homme de Dieu, nous vous avons rappelé que dans l'Ancien Testament, on trouvait 75 fois ce titre, et nous avons vu qu'il était donné à des hommes dont quelques noms nous sont connus et à d'autres qui nous sont inconnus, mais que Dieu connaît dans son amour. Ce qui compte, ce n'est pas que nous soyons connus du monde, hein, mais que Dieu nous connaît. C'est ça qui est important. Et nous avons cité ce matin, et je les rappelle simplement, 7 personnes qui sont nommées dans l'Ancien Testament, qui forment les Écritures, ce qu'on appelait les Écritures du temps de Jésus, 7 hommes qui portent ce nom d'homme de Dieu. Et je les cite simplement, Moïse, c'est le premier auquel est donné ce nom d'homme de Dieu, Deutéronome 33, verset 1, et nous avons remarqué que dans l'Ancien Testament, il est nommé 6 fois, à 6 reprises, il est nommé un homme de Dieu. Et je vous ai demandé de repasser dans vos cœurs tout ce que vous pouvez savoir de Moïse, de sa naissance à sa mort, 120 ans, c'est quelque chose. Et ensuite, nous avons parlé de Samuel, qui lui aussi est appelé homme de Dieu 4 fois. Moïse 6 fois, Samuel 4 fois. Et cet homme aussi, il vaut la peine de le considérer dans l'Écriture depuis sa conception, qui est vraiment aussi assez miraculeuse, puisque cette Anne semblait ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais elle a été exaucée par la prière. Dieu a entendu et l'a vu, les larmes de cette femme. Et je dis ceci, c'est que quelqu'un qui prie avec larmes, Dieu ne peut pas résister. Habituellement, vous pouvez faire une chaîne, hein. Je vous ai parlé cet après-midi de chaîne que je fais, et j'avais remarqué que toujours une prière faite avec larmes était exaucée. Les seules exceptions, eh bien, nous confirment la règle. Un qui n'a pas été exaucé et qui a pleuré, c'est Ésaü. Mais pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas pleuré sur sa faute, il a pleuré sur la bénédiction perdue. Mais il était profane, hein. Alors, il est dit qu'il n'a pas trouvé lieu à la bénédiction, quoi qu'il l'eût recherché avec larmes. Tandis que le secret de la victoire de Jacob, dans le combat qu'il eut avec l'ange, nous est révélé dans le chapitre 12 du livre d'Osée. Il est dit, il pleura et supplia. Mais dans le chapitre 32 de la Genèse, dans le combat, il n'est pas dit qu'il a pleuré. Donc vous voyez comme il faut lire toute la Bible. Et c'est dans Osée 12, au verset 4, que nous avons le secret de la victoire de Jacob. Il a pleuré dans ce combat. Et il a été victorieux. Et regardez, et si vous y allez, mais je ne veux pas m'éloigner de mon sujet, mais simplement la petite Agar, l'égyptienne, quand elle est partie, eh bien, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi pleures-tu? C'est comme c'était Jésus disant à Marie, hein, pourquoi pleures-tu? Qu'as-tu? Voilà, le Seigneur ne résiste pas aux larmes. Et on pourrait parler de rois qui ont pleuré, qui se sont humiliés, et Dieu leur a répondu. Mais on peut aussi parler d'un apôtre qui a eu, au fond, le pardon de son maître dans les larmes amères du repentir, je parle de Pierre. Mais vous avez cela à travers toute la Bible, n'est-ce pas? Nos larmes, quand ce sont vraiment des larmes, ce ne sont pas de crocodiles ou d'oignons, hein, mais des larmes qui viennent vraiment de notre état intérieur, ça ne tombe pas dans notre mouchoir. Il recueille nos larmes dans ses vaisseaux, dit un psaume, elles sont toutes écrites dans son livre. Et je vous promets qu'elles ont du poids. Mais prier avec larmes, c'est quelque chose. Eh bien, Anne avait été exaucée, et puis alors vous voyez maintenant cette vie de Samuel qui est appelé un homme de Dieu. Dès son enfance, il a été prêté à l'Éternel, il a appartenu au Seigneur. Dieu pouvait disposer de cet homme dès sa petite enfance, et il a grandi, et il est devenu ce juge d'Israël et ce grand prophète, celui qu'on appelait le voyant. Et avec Moïse, dans le chapitre 14 de Jérémie, ils sont nommés tous les deux comme étant de grands intercesseurs. C'étaient les grands intercesseurs d'Israël. Ils étaient exaucés. Et ils avaient du pouvoir sur Dieu. Et le monde le savait. Et alors, ce qui est frappant, dans ce 14 de Jérémie, il est dit que dans un certain temps, à une certaine heure, même si Moïse et Samuel étaient là pour prier, Dieu ne répondrait pas. Alors vous voyez comme c'est solennel. Hein? En quel temps sommes-nous, même si des hommes tels que Moïse et Samuel priaient, eh bien, peut-être que Dieu ne répondrait plus, parce que l'iniquité est à son comble. Arrive à son comble, et alors il n'y a plus que le jugement. Nous avons parlé ensuite d'Élie, qui est appelé sept fois homme de Dieu, et je pense que vous avez déjà repensé un peu à toute cette vie de cet homme qui apparaît tout à coup en disant « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant » et il parle à un roi, à Achab, qui pourrait le faire mourir et qui a voulu le faire mourir. Comme sa femme aussi plus tard, Jézabel, a voulu le faire mourir. Eh bien voilà le courage d'Élie. Et puis finalement, après le découragement qu'il a eu aussi, parce que c'était un homme aux mêmes passions que nous, et à un moment donné, il s'est découragé dans le désert, il s'est couché sous un genêt, il a demandé la mort pour son âme, puis Dieu, dans sa grâce, l'a fortifié. Je trouve que c'est admirable de repasser cela dans nos cœurs. Dieu envoie un ange. Mais nous, est-ce que nous y croyons aux anges? Mais je crois que si nous croyons davantage aux anges, il y a des choses qui se passent autrement dans nos cultes. Chez nos sœurs aussi. Parce que les anges, ils existent encore aujourd'hui. Hein. C'est pas seulement du temps de Saint-Paul qu'ils existent. Alors, voyez-vous, je crois qu'il nous faut revenir à ces certitudes. Et après avoir vu Élie s'en allant au ciel, dans la plénitude de sa force, nous avons vu Élisée, un homme de Dieu. Et 29 fois, Élisée est nommé homme de Dieu. C'est de lui qu'il est parlé le plus souvent comme étant un homme de Dieu. Et vous avez repassé sa vie, pris derrière les bœufs, derrière la charrue, et il est allé jusqu'au bout de sa course, fidèle à la parole. Et même après sa mort, quand on a contacté, quand un mort a été en contact avec ses os qui reposaient depuis une année dans le sépulcre, le mort a repris les os d'un homme de Dieu. C'est quelque chose. Alors, tous ces hommes nous enseignent. Tous ces hommes ont un message. Leur vie elle-même est un message. Puis alors, nous avons parlé de David, qui est nommé trois fois homme de Dieu, en vertu des instruments de musique qu'il a introduits en Israël pour les louanges du Seigneur. Je vous ai cité les passages, puis nous avons vu deux autres hommes de Dieu dont nous connaissons moins l'existence, la vie, c'est Shemaïa, qui est nommé deux fois homme de Dieu et qui fut le prophète qui avertit Roboam de ne pas combattre contre le royaume d'Israël et qui s'était séparé avec Jéroboam. Et enfin, Hanan, fils de Jidia, qui est appelé aussi homme de Dieu et qui faisait partie de cette fameuse famille des Récabites. Et nous avons ce récit dans le chapitre 35 de Jérémie, que vous pouvez lire aussi avec une bénédiction, puisque c'est par les Écritures qu'un homme de Dieu devient accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, j'ai noté que si j'additionne toutes ces fois où ils sont appelés ces hommes des hommes de Dieu, bien on trouve 52 fois l'Ancien Testament employant cette expression homme de Dieu pour qualifier des hommes dont nous connaissons les noms et les œuvres. Mais il reste 23 autres fois où ce titre est donné à des hommes dont nous ne connaissons pas les noms. Mais en revanche, ce que nous connaissons, c'est les messages. Et c'est ça qui compte. Alors, vous pourriez lire ces messages. Je vous cite simplement l'homme de Dieu qui vint vers le sacrificateur Élie au temps de Samuel. Au temps de Samuel, servait 1 Samuel 2, verset 27. Vous voyez, Élie était sacrificateur, mais Dieu ne se révèle pas à lui directement. Pourtant, c'était un vieillard et qui semblait honorable, mais son péché, c'était de ne pas reprendre ses fils. Enfin, c'est pas à 80 ans que vous commencez à reprendre vos fils en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites? J'entends dire tout ce qui est là de vous. C'est quand ils sont petits qu'il faut les élever, qu'il faut les corriger, qu'il faut les éduquer. Faut pas attendre qu'ils aient 80. Et il faut pas attendre qu'on ait 80 ans pour faire des remarques à nos enfants. Parce qu'ils vous écoutent plus. C'est absolument clair. Alors, vous voyez que toute la Bible, tous ces exemples, nous enseignent et nous nous sentons absolument concernés par ce que nous disent les Écritures. Et c'est par les Écritures que nous sommes enseignés et que nous avons de l'espérance. Eh bien, lisez le message de l'homme de Dieu, ce qu'il dit à Élie, le sacrificateur. Puis, vous avez, c'est ce qui va nous occuper ce soir, l'histoire de l'homme de Dieu qui vint de Juda à Bethel et qui est appelé 17 fois homme de Dieu dans ce chapitre 13 du premier livre des rois. Il y est là 15 fois et 2 fois dans le deuxième livre des rois au chapitre 23e, versets 16 et 17. Mais cet homme de Dieu de Juda est appelé 17 fois homme de Dieu. Et pourtant, nous savons que sa fin a été tragique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après avoir bien apporté le message que Dieu lui avait confié, il était monté de Jérusalem à Bethel pour être le témoin de Dieu, de ce que Dieu pensait. Il a communiqué le message, mais il a eu une faute, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué par un lion affamé. Non, le lion ne l'a pas dévoré. Et il n'a pas même dévoré l'âne. Les lions exécutent la volonté de Dieu. Et s'il le faut, ils ne mangent pas. Ils tuent, mais ils ne dévorent pas l'homme. Vous savez aussi que ça est arrivé à Daniel, et pourtant, vous pouvez bien vous imaginer que ceux qui avaient jeté Daniel dans la fosse aux lions n'avaient pas gavé les lions avant de jeter Daniel. Hein. Ils les avaient certainement affamés. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, eh bien, il a trouvé des lions qui étaient comme des petits chats et qui se promenaient autour de lui. Et il a pu certainement mieux dormir que le roi, qui cette nuit-là se tourmentait, se retournait dans son lit et ne prenait pas même une de ses concubines pour se passer le temps et ne plus penser, non. Un roi païen n'a pas dormi à cause d'un homme de Dieu qui était dans la fosse au lion. eh bien les lions n'ont pas dévoré Daniel. Mais en revanche, quand on a jeté les ennemis de Daniel, ils n'étaient pas encore en bas, au fond de la fosse, que leurs os craquaient déjà. Donc, vous voyez, les lions, le règne animal est sous l'autorité absolue de, du Créateur. Et ils font la volonté du Créateur. Il y a d'autres récits de lions qu'on pourrait souligner dans l'Écriture. De sorte que nous ne devons pas avoir peur des bêtes sauvages, pas même des lions. Et j'ai raconté cette histoire en Afrique, n'est-ce pas, du missionnaire qui a été attaqué par... Enfin, qui voyait des lions qui venaient de ce côté-ci, de ce côté-là, puis derrière. Et puis, il s'est vu perdu, c'était un noir. Alors, il s'est mis à prier, mais à haute voix. Puis, il leur a dit, je suis un homme de Dieu. Je sers le Seigneur, j'annonce l'Évangile. Vous ne devez pas me faire de mal. Je suis à son service comme vous. Et les lions sont partis. Ça fait il y a quelques années seulement, il y a 4 ans, ça fait pas. Et c'est une chose absolument sûre. Il a parlé aux lions. Et les lions s'en sont retournés. Ils sont au service du Seigneur. Mais nous n'y croyons pas à cela. Je pourrais vous raconter des histoires que j'ai vues au Vietnam, du temps du Vietcong, quand j'y étais là-bas. Et c'est vrai de vrai que nous avons affaire à un Dieu vivant. Mais... on ne peut plus voir sa puissance. Pour quelle raison? Parce qu'on a pris des assurances tout risque. N'est-ce pas? Alors, Dieu nous laisse avec nos assurances, bien sûr. N'est-ce pas? On s'est garanti, au fond presque, contre une intervention de la puissance de Dieu. Parce que Dieu intervient justement quand nous sommes dans une impossibilité. Alors là, vous voyez le Dieu de l'impossible. Qui se manifeste et qui agit, et ça renouvelle notre foi. Croyez-le, mes amis. Oh, je voudrais que vous puissiez repartir avec une foi au Dieu vivant, qui n'a pas changé, qui est le même, et qui, étant le Dieu de l'homme, veut manifester sa puissance dans l'homme, et pour l'homme qui se confie éperdument en lui. Et alors, il y aurait aussi l'homme de Dieu envoyé à Amazia, roi de Juda, aux deux chroniques, chapitre 25. Pour moi, j'ai reçu ce texte à Marseille une fois dans une épreuve terrible que j'avais un soir après une réunion. Eh bien, je devais prendre une décision et connaître la volonté de Dieu. Du reste, on en parlera ce soir, parce que c'est une question que certains auraient voulu que je puisse traiter. Eh bien, je crois que le Seigneur nous en donnera l'occasion. Comment connaître la volonté de Dieu? Ben, c'est toujours par la parole de Dieu. Eh bien, je me souviens toujours ce soir-là où j'étais fatigué, où beaucoup de chrétiens m'avaient donné des conseils en me disant, ben, tout le monde le fait, vous savez, parce que vous êtes un Suisse, c'est pas une question d'honnêteté, il était question d'une dissimulation dans l'achat d'une maison, et évidemment, l'État demandait une taxe terrible, et puis tout le monde fraudait, même l'inspecteur du fisc ne déclarait pas la somme totale, parce que l'État savait que tout le monde fraudait, il mettait 24%, puis si on déclarait 12%, les notaires nous disaient qu'on était correct. Mais... alors, mes amis, qu'est-ce que ça s'appelle, faire une chose comme ça? Tous les chrétiens l'avaient fait en France. Et alors, ils auraient voulu que je fasse la même chose. Mais ça s'appelait une dissimulation. Mais je me disais, mais tu es vieux jeu, certainement. Ils te disent que tu es correct, l'État est un voleur, etc. Alors, vous pouvez même, un notaire m'avait dit, mais vous mettez la somme, vous la mettez pour l'œuvre de Dieu, l'autre somme. Mais ne donnez pas ça à l'État. Et puis de toute façon, ils ne vous croiront pas. Vous voyez comme c'est subtil, hein? Parce que tout le monde prend, ils ne vous croiront pas. C'est justement pour l'achat de la maison qui s'appelle maintenant le refuge. Et voilà, moi, j'étais là en prière, puis avant de m'endormir, j'ai lu le chapitre 25 de ce deuxième livre des Chroniques. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Verset 7. Le roi d'Israël prend à sa solde des hommes. Le roi de Juda prend à sa solde des hommes d'Israël, et Dieu lui dit qu'il n'est pas avec Israël. Il lui envoie Amadia qui dit, Dieu n'est pas avec Israël. Mais il a déjà payé toute une somme, n'est-ce pas? Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire alors quant aux 100 talents d'argent que j'ai déjà payé? Et quelle est la réponse de l'homme de Dieu? Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. C'est formidable. Alors, moi j'avais ma réponse. C'était plus Amadia et cet homme de Dieu. C'était l'homme de Dieu pour moi, qui me répondait, toi tu es en train de pleurer sur 500 000 francs français, il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. Et ça a été tellement vrai, alors je suis rentré, j'ai dit au notaire, il n'y a rien à faire, vous faites la déclaration telle qu'elle doit être faite. Il m'a dit, mais vous êtes fou, et puis le propriétaire ne voudra pas, parce que votre honnêteté l'oblige à être honnête lui aussi. Enfin, vous voyez tout cela. Et en finale, eh bien, le propriétaire a été d'accord. Et non seulement cela, il est venu me trouver, c'était un vieillard, il est venu depuis près de Genève, et puis il m'a dit, vous savez, avec ma femme, c'était un catholique, justement. Nous avons pensé, les pasteurs en France, ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours du beurre sur les épinards, eh bien, nous descendons de 700 000 francs. Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. C'est vrai ou c'est faux? Je vous raconte des histoires. J'ai inventé ça, j'ai sorti ça de mon sac à surprise. Non, mes amis, c'est vrai. Et le Seigneur le sait. Mais il nous éclaire. Mais vous voyez qu'il nous forme par l'Écriture. Il nous parle par l'Écriture. Et au moment où il faut qu'on entende ça. Mais quand on entend des chrétiens qui nous disent, alors quand j'ai pris cette décision, ils ne croiront pas. Et je vois encore le jour où l'inspecteur est venu pour constater quelle maison j'avais pris, parce qu'on m'avait dit, ils vous croiront pas, puis ils peuvent vous prendre la maison, qu'ils la prennent. Mais moi, je ne paierai pas un cent de plus. Ça, c'est absolument, ils me mettront en prison, ça m'est bien égal, s'ils prennent la maison, c'est l'affaire de Dieu. Et quand l'inspecteur est venu, il a regardé tout cela, et j'ai dit, alors, vous ne croyez pas, je pense à ma déclaration. Il me dit, pourquoi? Je dis, on m'a dit que j'étais un imbécile. Et puis il me dit, monsieur Racine, nous vous avons cru. Et sachez qu'on peut encore être honnête en France. Vous voyez, ce que Dieu fait, mais c'est toutes ces choses qu'on vit. Et c'est par toutes ces choses qu'est la vie de notre esprit et que l'on croit qu'il est puissant et que c'est dans les questions tout à fait pratiques et peut-être terre à terre, que nous avons besoin d'être enseignés par l'Écriture. Mais ma conviction, elle a été donnée par cet homme de Dieu, inconnu pour moi, mais qui a parlé à Amadia. Et puis, alors, il y aurait encore, il est parlé trois fois de lui, son nom est donné trois fois comme homme de Dieu, puis il y a un autre passage où deux fois nous trouvons cette expression homme de Dieu, mais alors c'est dans Juges 13, versets 6 à 8, quand la femme de Manoah dit qu'elle a été visitée par un homme de Dieu, alors le mari Manoah demande à Dieu de lui envoyer encore une fois ce personnage pour savoir comment élever leur enfant qui s'appellerait Samson. Et alors, il y a une réponse, ce personnage qui a annoncé à la femme de Manoah qu'elle serait enceinte, est revenu et a parlé au futur père de Samson. Et alors Manoah lui demande, quel est ton nom? Il demande à l'homme de Dieu, deux fois il est appelé l'homme de Dieu. C'était qui?
C'est le Seigneur lui-même. Alors, quelle a été la réponse? Quel est ton nom? Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Voilà. Alors, vous voyez que l'homme de Dieu par excellence, c'est qui? Je vous l'ai dit ce matin, c'était Jésus-Christ. L'homme de Dieu par excellence qu'on doit toujours avoir devant nos yeux, et en toute l'Écriture, c'est celui dont le nom est merveilleux. Alors, dans le Nouveau Testament, comme je viens de le lire, on trouve deux fois cette expression « homme de Dieu » et dans Timothée, et c'est Timothée qui porte ce nom d'homme de Dieu à deux reprises, et alors les saints hommes de Dieu dont nous parle l'apôtre Pierre, qui ont écrit, au fond, les textes que nous avons dans le Nouveau Testament et qui font partie de l'Écriture. Mais notre conclusion, c'était ceci, c'est que personne n'a pris ce titre. On ne prend pas le titre d'homme de Dieu. Je ne vais pas vous dire, moi je suis un homme de Dieu. C'est pas ces hommes qui ont dit qu'ils étaient des hommes de Dieu. C'est le monde qui a reconnu qu'ils étaient des hommes de Dieu. Parce qu'ils avaient une vie telle que cela prouvait qu'ils étaient des êtres qui n'avaient pas des idées religieuses qu'ils colportaient, mais qu'ils étaient habités. Et voyez-vous, nous, les chrétiens, nous devons être habités, non pas par des doctrines, par des idées, par des dogmes, mais par quelqu'un. C'est pour ça que j'insiste tellement sur ce fait que le salut, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une relation actuelle, vivante, personnelle, quotidienne, avec le Père et son Fils Jésus-Christ, par la puissance d'amour du Saint-Esprit. Donc, personne ne prend le titre d'homme de Dieu. Mais Dieu l'a donné, ce titre, à des hommes qui étaient choisis par lui et envoyés par lui. Et ces hommes avaient un caractère et un message tout à fait précis et que nous développerons, Dieu voulant, demain matin avant de parvenir à notre culte d'adoration. Mais ce soir, nous allons nous laisser former par l'Écriture et pour avoir une meilleure compréhension de tout notre sujet, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de cet homme de Dieu venu de Juda à Bethel, qui était la ville où Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord après le schisme, qui eut lieu à la mort de Salomon, eh bien, Jéroboam avait élevé à Bethel, quoi? Des veaux d'or. Des veaux d'or. Et à Bethel et à Dan, comme nous allons le lire. Et vous savez, ce sont des parties de la Bible qu'on ne lit pas très souvent, et pourtant, il y a des choses merveilleuses. Alors, pour situer, c'est le chapitre 13, donc, du premier livre des rois. Mais pour situer toute cette affaire, il faut vraiment partir du règne de Salomon. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui nous parle. David, père de Salomon, avait confié son fils, comme vous le savez, à Nathan le prophète, comme s'il reconnaissait avoir échoué dans l'éducation de ses enfants. C'est très frappant. Et vous savez, qui était la mère de Salomon? C'était Bathsheba, n'est-ce pas? Avec laquelle David avait commis un adultère. Mais Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. David s'est reconnu coupable, il s'est humilié, il n'a pas dit « j'ai péché, mais honore-moi », comme l'a fait Saül, hein, mais il a dit « j'ai péché » et il a confessé son péché. Lisez le psaume 32, il nous montre dans quel état il était tant qu'il n'avait pas confessé son péché. Et même, il l'a confessé d'une façon publique en écrivant le Miserere, qui est le psaume 51, que vous avez souvent lu autrefois peut-être dans votre église. Eh bien, le psaume 51, que l'église romaine appelle le Miserere, hein, où il y a la confession de sa faute. Il confesse sa faute. Contre toi seul, j'ai péché. En moi la joie de ton salut. Et puis, il parle de ces sacrifices que Dieu ne refuse pas. Tu ne refuses pas le sacrifice d'un cœur brisé et humilié. David s'est vraiment humilié devant Dieu et d'une humiliation qui était publique. Mais nous devons constater que David a compris qu'il n'avait pas été un père capable d'éduquer ses enfants, et puis il n'a pas été un exemple là. Alors il a confié Salomon à Nathan le prophète, qu'il avait repris, qui était venu lui dire « Tu as péché, tu es cet homme-là, que toi-même tu condamnes Il lui a raconté cette petite parabole du voyageur et qui est venu chez un homme riche, et cet homme riche qui est venu tuer la brebis du pauvre. Alors David a encore une confiance et il dit cet homme-là est mérite la mort. Eh bien c'est toi qui es cet homme, tu es cet homme. Alors Salomon a été directement formé par Nathan, le prophète. Vous avez cela dans le chapitre 12 du deuxième livre de Samuel. Je vous dis ces textes parce que je veux que vous soyez bien convaincus que ce que je vous dis là, c'est la parole de Dieu. David, verset 24, consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Yedidia veut dire aimé de l'Éternel. Donc, vous voyez que Salomon était un enfant aimé de l'Éternel. Et quant à l'éducation que David avait manqué pour ses fils, je vous cite simplement le chapitre premier du premier livre des rois, verset 6, concernant Adonijah, un de ses fils, il est dit de lui, au verset 6, « Son père, donc David, ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche. Hein? » C'est un bon père, ça. « Papa ne m'a jamais rien reproché. Il ne m'a jamais corrigé. » Ah, quel père j'ai eu. Vous pensez? Comment toi qui étais mon père, tu m'as pas dit cela? Je n'étais pas capable de comprendre cela, j'aurais mérité une cessée, pourquoi tu ne me l'as pas donné? Voilà ce que disent les enfants après à leurs parents, qui ont tellement voulu les épargner. Parce que, enfin, c'est des nouvelles méthodes d'éducation, parce que la Bible, c'est trop vieux jeu. Et puis, c'est des bourreaux d'enfants, les parents de la Bible, bourreaux d'enfants. Son père ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Pourquoi agis-tu ainsi ? Il n'avait jamais demandé. Alors, évidemment, les enfants font ce qu'ils veulent. Les parents ont démissionné. C'est pour vous montrer que combien tout cela nous parle dans les temps actuels. Alors maintenant, j'en reviens à Salomon. Lisons au chapitre 11 du premier livre des rois, parce que vous connaissez toute la vie de Salomon, vous connaissez comment il a tellement bien commencé. À 20 ans, Salomon, tout jeune homme, est recommandé par son père à tout Israël, et lui dit, moi, je ne suis pas désigné par Dieu pour bâtir le temple, parce que Dieu m'a dit, tu es un homme de sang, et vous voyez que Dieu n'était pas d'accord avec tout ce que David a fait. Il a versé beaucoup de sang. et c'est pas à Dieu qui lui ordonnait de verser ce sang. Eh bien, il lui dit, tu es un homme de sang, c'est pas toi qui bâtiras ma maison. Mais, c'est ton fils Salomon. Alors, David aurait pu dire, bah, tant pis, je laisse mon fils qui se débrouille. Moi, ça m'intéresse plus. Parce qu'il sait très bien qu'on n'appellera jamais ce temple le temple de David. On appellera le temple de Salomon. Mais vous voyez, un David, qui pensant que son fils est très jeune, eh bien, met tout son cœur pour préparer tous les matériaux qui serviront à la construction du temple. De sorte que les plans, tout cela a été fait par David, de sorte que Salomon a trouvé un travail, tout préparé, et tout ce qu'il fallait pour édifier le temple, qui sera appelé temple de Salomon, mais qui a été préparé par David, son père. Voilà ce désintéressement que vous pouvez trouver alors chez un homme de Dieu qui a été façonné par Dieu, qui a accepté les châtiments de Dieu, la discipline de Dieu, et quand il avait manqué, eh bien, il arrive vraiment à se être totalement désintéressé. Alors, ce Salomon est tellement pieux, tellement fidèle, qu'il prie, et qu'est-ce qui lui arrive? Dieu lui apparaît. Et c'est formidable. Dans toute la vie de Salomon, il n'y a pas de prophète qui vienne lui parler. Dieu parle directement avec Salomon. C'est ce qui arrive quand on est en contact avec le Seigneur. Quand on est en contact avec le Seigneur, eh bien le Seigneur ne nous envoie pas quelqu'un pour nous dire sa volonté. Il nous révèle lui-même sa volonté. Je n'ai rien contre les conseillers, mais vous n'avez pas assez de dépendance personnelle avec Dieu. Si vous êtes vraiment dans la main du Seigneur, le Seigneur vous dirigera. Et vous pouvez le croire, oui, on a besoin de ces frères, mais qui viennent simplement nous confirmer une volonté que le Seigneur nous a déjà révélée intérieurement. Alors, vous sentez vraiment un amen chez vos frères qui disent, oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, on sent quand on entend quelqu'un, eh bien oui, ce qu'il nous dit, c'est juste. Alors, on peut simplement le confirmer. Mais moi, je vous dis pas la décision que vous devez prendre. Mais j'essaye simplement de vous montrer cela. Alors, dans la vie de Salomon, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire. Et deux fois, Dieu lui était apparu. Il l'a visité deux fois et il lui a parlé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu me demandes? Vous savez, les hommes de Dieu pouvaient demander quelque chose. Vous vous souvenez de Élisée, il a demandé la double mesure de l'esprit d'Élie, et il l'a eu. Alors c'est ça qui est merveilleux. Dieu répond, demandez, mais c'est tout ce que Jésus a dit, demandez, vous recevez. Si vous qui êtes méchants, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste saura-t-il donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Mais nous ne demandons pas. Ou en dernier ressort, quand on a épuisé toutes nos ressources, alors on va vers Dieu. On ne voulait pas le déranger. C'était « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Notre beau verset biblique. Trouvez-le. Je ne vais pas vous aider à le trouver. C'est pas « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et pourtant, c'est religieux, ça. On vous le dit dans toutes les communautés. C'est incroyable. Incroyable. L'ignorance qui se trouve au fond des cœurs de gens qui se disent chrétiens. Bien que le Seigneur veuille vraiment nous parler, souvenez-vous de Salomon. Et alors, je lis au chapitre 1. Est-ce que Salomon a répondu à l'attente du Seigneur? Il a fait des choses merveilleuses. Il a écrit des proverbes, il a écrit le Cantique des Cantiques, il a écrit l'Ecclésiaste aussi. Et puis, dans le chapitre 4 du premier livre des Rois, il nous est dit qu'il a parlé dans tous les domaines. Il a montré sa science, sa sagesse. Et pourtant, qu'est-ce qui lui est arrivé? À la fin de 40 ans de règne,
Qu'est-ce que nous lisons de lui? Verset 9 du chapitre 11 des Rois. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Vous voyez que Dieu s'est compté, hein? Et se souvient. Il lui était apparu deux fois. Comme il dit à Moïse, voilà déjà 10 fois que ce peuple murmure. Hein? Et puis vous pouvez aller en arrière et vous trouvez vraiment 10 fois que le peuple a murmuré. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, et il a écrit sur ces lois, Salomon, lisez les proverbes, et c'est inspiré de Dieu ce que Salomon a écrit. Je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, ton père, vous voyez, à cause de papa. C'est quand même beau, hein, malgré tout, David. Voilà, Dieu se souvient des bons faits de David. Et c'est Salomon qui en bénéficie. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, à cause de grand-papa. Vous voyez, c'est ça. Faut dire les choses comme on doit les dire. Hein. Comme l'aïeul de Timothée, eh bien, a été en bénédiction pour Timothée, Loïs et Eunice, sa mère. Et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alors l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, etc. Et vous voyez au verset 26, cet ennemi, au fond, qui va nous occuper, c'est Jéroboam. Verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tseder-Réda. Et il avait pour mère une veuve nommée Tseruya. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Et Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Sur toutes les tribus d'Israël. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Et pourtant, il a eu des fautes, hein, mais il n'en est plus question, là. Parce qu'il s'est humilié. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Et je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, écoutez bien cela, voilà, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, qui parle à Jéroboam,
par un prophète. Alors, je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon, alors, chercha à faire mourir Jéroboam. Il faut se débarrasser de cet homme. Puis, s'il a entendu parler de cette histoire d'Akija, eh bien, il faut se débarrasser de Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte, et il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et voilà, Salomon meurt. Et vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est que cet homme, quel âge avait-il quand il est mort, Salomon? 60 ans. C'est jeune. Lui qui avait écrit dans les Proverbes que si on gardait les paroles du Seigneur, cela prolongerait nos jours. Et on ferait une bénédiction. Eh bien, celui qui a écrit tous ces versets qui nous montrent que la fidélité à la parole peut même prolonger nos jours sur la terre, il ne les a pas prolongés lui-même. Mais ça ne veut pas dire que les paroles de Salomon n'étaient pas inspirées. Mais quand il a écrit ça, il y croyait. Mais vous voyez que celui qui est debout ou qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. On peut écrire des cantiques, on peut faire des beaux psaumes. David a écrit des beaux cantiques, ça ne l'a pas empêché de commettre adultère. Si tu ne veilles pas, si tu vas à un endroit où tu ne dois pas être, à une heure où tu ne dois pas être, eh bien le Seigneur ne veut pas te garder. Et si nous ne nous jugeons pas de nos tendances naturelles, et David avait un fait pour les femmes, il ne s'en est jamais jugé, et un jour, ben, il est tombé. Il faut savoir se juger de nos tendances et les appeler comme on doit les appeler, péchés. Et alors le Seigneur nous délivre. Mais tant que nous n'avons pas appelé une tendance naturelle péché, eh bien, nous n'en sommes pas délivrés. Alors, nous continuons. Donc, vous voyez que Jéroboam, il peut rien lui arriver, puisque Dieu lui a dit, tu régneras sur Israël. Mais c'est Salomon qui a voulu faire mourir Jéroboam, et c'est lui qui meurt. Salomon meurt. On ne peut pas empêcher la volonté de Dieu s'accomplir. Et vous savez, il lui avait parlé au fond trois fois, hein, directement. Il lui a parlé deux fois, et puis la troisième fois, il l'a encore averti de ce qui allait arriver. Et maintenant, nous passons plus loin, dans le chapitre 12, nous apprenons ce qui est arrivé à la suite du règne de Salomon. Roboam, chapitre 12, se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin de Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. » Et il leur dit « Allez. » Et revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple s'en alla. Alors le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui disent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens, bien ce qu'on fait aujourd'hui, hein, qui avait grandi avec lui et qui l'entourait, parce qu'on est toujours influencé par ceux qui nous entourent. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que disent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant. Et moi, et toi, allège-t-on le joug? Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Vous rendez-vous compte? Et maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Alors, bon, il a écouté le conseil des jeunes gens, il a apporté cette parole. Vous voyez, on suit toujours ceux qui sont le plus proches de nos propres pensées, on leur demande conseil, mais au fond, on a déjà arrêté dans son cœur à peu près ce que l'on veut, et puis on fonce. Alors, ils foncent, et puis qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas vous lire tout le texte, mais vous apprenez que c'est alors la séparation, c'est le schisme. Quand Jéroboam entend la réponse de Roboam avec tout le peuple, le troisième jour, eh bien, quelle est la décision d'Israël? Verset 16, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison. David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Et alors, évidemment, que va faire Roboam? Mais il veut reprendre le pouvoir contre les 10 tribus. Et il organise déjà une armée pour aller combattre les 10 tribus. Et c'est alors, au verset 22e, que vous avez le message de cet homme de Dieu, qui s'appelle Shemaïa, verset 22. « Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïa, homme de Dieu, parle à Roboam, dit, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, aux enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » C'est clair. Dieu dit qu'il prend la responsabilité de ce fils. Le permet. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, alors voilà un fait qui est bon, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Donc, Roboam a quand même obéi là à la parole de l'Éternel, il n'est pas monté pour faire la guerre. Mais ce que vous trouvez alors, c'est la suite, verset 25. Jéroboam, donc, qui se souvient de ce qu'Akija lui a dit, bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Peniel. Jéroboam dit en son cœur, « Oh mes amis, c'est cela que vous devez comprendre. Ne parlez pas en votre cœur, souvenez-vous de ce que Dieu vous a déclaré. Mais n'essayez pas, n'est-ce pas, maintenant de parler en votre cœur, d'avoir des idées, d'avoir des pensées personnelles. Le Seigneur nous a dit ce qui pouvait nous attendre. Alors, obéissons à sa volonté. Mais Jéroboam, qui sait qu'il peut régner, et qui s'il est fidèle, et qu'il suit les principes de David, s'il marche dans ses voies, il sera béni. Eh bien, Jéroboam dit en son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Voilà. On a des pensées personnelles. Puis on dit, mais quand même, Il faut que je sois intelligent. Qu'est-ce qui va se passer? Le temple, le vrai temple, est à Jérusalem. Si les 10 tribus ne vont plus au temple, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que je leur trouve quelque chose qu'ils puissent adorer sur place. Parce que comme ça, ils risquent d'être tentés d'aller aux grandes fêtes à Jérusalem. Puis pour finir, le royaume retournera à David. Alors, il conçoit un plan pour garder ses tribus. Verset 27, vous voyez. « Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. Et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après cette confiance, donc il n'a pas cru les paroles du prophète. Ce que le prophète lui avait dit, qu'il pourrait régner, qu'il aurait des successeurs, etc. Tout cela, il ne l'a pas cru. Après s'être consulté, vous voyez, on se consulte soi-même. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or. Rendez-vous compte. Et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Vraiment, nous sommes des hommes qui ne comprennent rien à rien. Qui est-ce qui avait déjà fait cela une fois? Aaron. Qui, après avoir fait le veau d'or sur la demande du peuple d'Israël, alors qu'il est conducteur spirituel, qu'il devait dire non, il dit, mais le peuple, tu sais bien, il dit à Moïse, il est porté au péché, alors voilà, ben j'ai fait ça. Avec une légèreté incroyable, un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le chapitre 32 de l'Exode. Demain, une fête, à qui? À l'Éternel. Et il a fait le veau d'or. Et on appelle le veau d'or l'Éternel. Demain, une fête à l'Éternel. C'est quelque chose de terrible. C'était la festivaliste, déjà, de ce temps-là, hein, dont j'ai parlé. Ça fait plus que les festivals aujourd'hui. Oui. Eh bien, oui, déjà, de ce temps, le festival du désert, le festival du veau d'or est commandé par un sacrificateur, par Aaron. Alors, Jéroboam, qui connaît pourtant toutes ces choses, il fait la même chose et il place donc ses veaux à Bethel. Verset 29, il plaça ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des sacrificateurs, ça ne suffit pas d'avoir des veaux, hein, si on veut faire un culte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il créa. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On crée des serviteurs. On crée des sacrificateurs. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Ah, ça c'est la démocratie. Pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ne pouvaient être sacrificateurs que les descendants de Lévi. Mais maintenant, on n'est plus du tout d'accord. C'est lui-même qui crée les sacrificateurs. C'est pas Dieu qui les établit. C'est l'homme qui établit, d'après ses propres pensées, des sacrificateurs. Et verset 32, il établit une fête au huitième mois. Qu'est-ce qui avait établi les fêtes en Israël? C'était Dieu. Relisez le Lévitique. Le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, parce qu'il ne faut pas qu'il soit tenté, on a notre fête, nous, maintenant, il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem, on l'a la nôtre. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. De quel droit un roi peut-il offrir des sacrifices? Il se fait lui-même sacrificateur. Et vous savez que le roi ne pouvait pas être sacrificateur. Celui qui, en Juda, a voulu prendre la sacrificature, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu lépreux. Il a été frappé de lèpre, c'est Ozias, hein, qui a voulu cumuler les deux fonctions, la royauté et la sacrificature. La sacrificature était à la tribu de Lévi. La royauté à quelle tribu? À la tribu de Judas. C'était les principes de l'Éternel. C'était ce que Dieu voulait. Mais voilà, on renverse tout, c'est la révolution. Alors, il établit sa fête. Et puis, toujours ce verset 32, il passa à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait et aux hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi à son gré. Vous voyez, on choisit à notre gré, cela nous plaît, ça correspond soi-disant aux besoins du jour. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Et alors là, tout de suite, je voudrais vous dire, il est important de ne pas nous arrêter là et continuer tout de suite parce que c'est le chapitre 13 qui va encore nous occuper un moment où il parlait du prophète de Judas. Mais pour que vous sachiez quelque chose et que vous compreniez bien ce passage, il faut aller dans les chroniques. Notre frère ce matin a été bien inspiré de vous dire que pour la parabole du semeur, il fallait pas seulement lire cette parabole dans Matthieu, mais il fallait la lire aussi dans Marc et dans Luc. Et que vous auriez quelques éléments qui étaient nécessaires pour bien comprendre tout cela. Eh bien, maintenant, allez dans le livre des chroniques, au chapitre 11e du deuxième livre des chroniques, où vous trouvez à peu près le même récit. Je ne vais pas relire ce qui concerne Roboam, mais je vais quand même... chapitre 11 du deuxième livre des chroniques, vous l'avez, c'est donc Roboam arrivé à Jérusalem qui rassemble Juda et Benjamin, et puis il est parlé de nouveau du prophète qui l'empêche d'aller contre ses frères les Israélites. Et alors nous avons quelques hauts faits de Roboam qui a obéi. Verset 11, il les fortifia, il a fait des villes, il établit des commandants, et des magasins, des vivres, d'huile et de vin. Verset 12, il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il rendit ces villes très fortes. Juda et Benjamin étaient avec lui. Verset 13, les sacrificateurs, notez bien cela, et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas dit dans...